Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien chez vous sur Europe 1. Et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et comme vous le savez, si vous nous appelez ce soir et que nous n'arrivons pas à parler ce soir, eh bien, nous vous programmons pour demain, donc vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes avec Perrine, qui nous appelle du Canada, et qui nous évoque ses retrouvailles avec un premier amour, et cette prise de conscience pour son couple, que cette parenthèse, elle peut faire du bien, parce qu'il n'y a qu'une semaine de passé, hein, Perrine, pour l'instant. Vous l'évaluez de manière assez positive, hein, cette constructive en tout cas cette semaine.
Oui, je pense. En fait, c'est vrai, on a l'impression qu'une semaine c'est pas énorme, mais déjà j'ai l'impression d'avoir fait un bout de chemin. J'ai l'impression qu'en fait plusieurs semaines se sont écoulées. C'est assez étrange, mais j'ai emmagasiné tellement de connaissances, Olivier, j'ai réussi vraiment à analyser la situation et à prendre du recul. Ça a l'air rapide, mais vraiment, je vous assure que ça a été une semaine intense, riche d'apprentissage.
Je ne doute pas une seule seconde que cela ait été intense pour vous, bien évidemment, pour votre mari. Est-ce que vous évaluez bien les choses? Est-ce que ça a été aussi intense pour lui? Est-ce que vous avez l'impression qu'il avance? Est-ce qu'il vous parle dès qu'il a envie de vous parler? Est-ce que vous êtes dans une bonne communication tous les deux?
Ouais. Exactement. Oui, vraiment. Je pense que il y a eu un gros déclic en fait de son côté. On communique constamment, tout le temps. On est toujours en télétravail, mais avant on était deux sortes de colocataires ou collègues qui partageaient un espace de vie et de travail. Là, sincèrement, il y a des échanges et on communique et j'ai trouvé des astuces, des choses. Au début, c'est sûr que ça a l'air d'être un script écrit d'avance, en fait. Lui poser quelques questions, comment s'est passée ta journée, etc. Donc, ça a l'air un peu préparé. Mais justement, ces choses-là amènent d'autres paroles et d'autres actions qui sont beaucoup plus naturelles. Et ça restaure un vrai dialogue entre nous.
Oui. Est-ce que vous avez l'impression...
c'est un peu ce qui s'est passé.
Surtout, ce qui est important dans ce qui vous est arrivé, c'est que ce couple ronronnait. C'était... votre point de vue, c'était votre ressenti. Était-ce son ressenti à lui? Est-ce qu'il avait perçu cela? Ou finalement, est-ce qu'il s'était installé dans tout ça? Et est-ce qu'il conçoit que tout ça, il l'avait laissé un peu couler comme ça? Il laissait le temps faire les choses? Est-ce qu'il conçoit et il admet que qu'il ne faisait plus grand-chose pour que entre vous, ça ne soit pas tout le temps la même chose?
Alors oui, la réponse est oui à tout ça.
Ça, c'est très bien.
Il s'en est rendu compte. Il savait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, mais ce n'était pas au point d'imaginer que je pouvais aller voir ailleurs. Il a réalisé lui aussi que... Et en fait, il me l'a dit, mais en fait, on a essayé de reconstituer ensemble, en fait, l'échelle chronologique, se dire, mais à partir de quand on a commencé à s'enliser comme ça? Et moi, je pensais que c'était la pandémie. Je pensais vraiment que c'était la pandémie. Je voyais que ça, et puis tout le monde parle de ça. Donc j'étais obnubilée par ça. Mais lui a été capable de faire remonter ça encore plus tôt. En fait, on a eu notre deuxième bébé, mon fils qui a maintenant 3 ans et demi.
Oui.
Et mon fils est né avec une grave malformation cardiaque.
Oui.
génétiquement transmise. En fait, mon mari a eu exactement la même chose, a été opéré pour cette raison-là aussi quand il était bébé. Donc, même si ça a été diagnostiqué avant la naissance, c'est vraiment quelque chose... moi, ça m'a donné un énorme coup de stress. Voilà. L'avant, le pendant et l'après, c'était vraiment très, très stressant. On est dans un contexte d'exil, d'émigration, où en fait, on n'a ni l'un ni l'autre notre famille proche. Ma famille est en France, sa famille est aux États-Unis. Sa famille est venue, ils sont tous médecins, ils ont voulu nous aider, nous soutenir moralement. Mais en fait, c'est vraiment bizarre, ça a été juste l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai cherché un soutien moral du côté de ma belle-mère parce que ma mère n'était pas là. Et c'est vraiment bizarre. Et elle a eu des réactions impensables, des réactions vraiment négatives. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé et j'étais encore plus frustrée de ça. Je n'arrivais pas à chercher de réconfort chez elle. Je n'arrivais pas à chercher un remplacement de mère chez elle. Donc, il y a eu tout un truc comme ça qui s'est passé. Et c'est à partir de là aussi, donc, on est devenus des parents. On est devenus des parents qui gèrent un enfant qui a eu un bébé qui a eu une opération monumentale à 30 heures de vie. Mon fils a été opéré à 30 heures de vie. Il a eu une énorme cicatrice sur la poitrine. Donc, c'était aussi visualiser ça. En fait, à chaque fois que je lui donnais le bain, je voyais ça. Moi, ça me rendait dingue. Enfin, très émotive en tout cas. Et fort heureusement, en fait, tous ces résultats médicaux, ces tests médicaux étaient toujours assez bons. Donc, en réalité, voilà, il y a un moment où ça s'est dissipé un petit peu les inquiétudes et aujourd'hui, tout va bien. Il est pratiquement normal. Il y a certains petits trucs qui changent d'un enfant 100%, qui n'a pas de malformation, mais il a une vie relativement normale.
Mais vous êtes épuisé. Oui. Vous êtes comme...
Complètement.
Déjà, quand un enfant naît, c'est naturel que l'on se transforme en parent et qu'on en oublie l'aspect amoureux du couple. Souvent, l'arrivée d'un enfant éreinte et met vraiment à l'épreuve le couple. Là, il est certain qu'avec cette malformation cardiaque, vous avez été vraiment tous les deux mis à l'épreuve. Et c'est lui qui l'a remarqué, ça, qui en a parlé ?
Oui. Comme je vous ai dit, moi, je m'arrêtais vraiment à la pandémie alors qu'il m'a dit que ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment...
C'est là que ça a commencé.
C'est cette naissance qui nous a bouleversés, ouais.
Oui.
Mmh. Oui.
Et souvent, souvent ce sont des événements... Alors, la naissance d'un enfant, comme je vous le dis, est un événement majeur qui met à l'épreuve le couple. Mais souvent, on se transforme en parents et on ne finit plus qu'être que cela par an. Et là, le couple en prend vraiment un coup. Et c'est là où il faut être très, très alerte, très attentif sur son couple.
Vraiment. Et c'est dans la vie quotidienne, un enfant comme ça aussi, c'est un enfant qu'on couvre naturellement encore plus qu'un autre. Donc... Et ça, c'est un truc que les pédiatres disent toujours aux jeunes parents. Faites attention à ne pas dormir avec votre bébé, dormir avec votre enfant. Essayez rapidement de lui donner un sens d'autonomie, etc. Et moi, c'était tout le contraire, en fait. Je l'ai couvé. Et puis, s'il pleurait dans la nuit, j'allais chercher le prendre avec moi. Donc forcément, il dormait entre mon mari et moi. On était que des parents pendant la journée. On était aussi que des parents pendant la nuit. Donc, j'en suis consciente après coup, j'ai eu des actions et des attitudes qui n'ont vraiment pas aidé à ça. Mais c'est un petit peu ça. Mais waouh, c'est fou de se dire que, il y a certaines erreurs, je pense, dans la vie, il faut les faire, il faut les commettre pour se rendre compte que ce sont des erreurs.
Mais bien sûr.
C'est dommage, on aimerait vraiment que tout se passe bien, on aimerait vraiment avoir ce mariage parfait, tout roule.
Mais ça, c'est dans la...
Quand je vois des couples établis, je me dis, mais comment ils font ? Ils ont l'air amoureux comme ça, après 30, 40 ans de vie commune, 55 ans dans le cas de mes parents. Et je ne comprenais pas.
Mais peut-être que ces couples-là dont vous parlez sont eux-mêmes passés par des moments critiques, des moments où ils se sont peut-être séparés, où ils ont failli séparer. Peut-être sont-ils passés, comme vous, vous passez en ce moment, par une aventure comme celle que vous avez vécue. Et cela fait partie des épreuves qu'un couple traverse. Et si on a l'intelligence de bien décrypter ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, et surtout, après, être dans l'interprétation à deux de ce qui s'est passé et dans la quête de sens, c'est vraiment génial parce que je pense que votre couple va vraiment en ressortir très fort, avec une confiance renforcée. Le fait que vous ayez dit,
le fait
que vous l'ayez dit à votre mari, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez vivre quelque chose qui est à vous. Et il faut faire attention, dans notre première discussion, je vous avais dit de faire attention à ne pas faire de mal à l'autre. Vous vous rappelez ? Là, vous avez pris la décision, et une décision de femme et d'épouse, de le révéler à votre mari, sûrement parce que ça s'inscrivait totalement dans ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez éprouvé le besoin de le lui dire parce que tout cela avait un sens pour vous qui n'allait pas aller à son extrême, à sa fin, si vous ne lui révéliez pas ça. En fait, il fallait que ce que vous aviez fait prenne du sens pour votre couple. Instinctivement, en fait, je pense que vous avez révélé ça à votre époux parce que vous avez ressenti, et c'est sans doute l'instinct féminin qui vous a fait parler, vous avez sans doute ressenti que ça allait être une tempête, mais que si vous sortiez indemne de cette tempête, votre couple allait vraiment en bénéficier.
Je vous avoue, honnêtement, j'ai eu peur de sa réaction.
Bien sûr, ça, c'est normal, c'est humain, c'est normal.
J'ai eu très très peur et je me rejoue la scène encore et je sais qu'au tout début, je lui ai dit... S'il te plaît, ne crie pas, ne m'insulte pas, ne me frappe pas. J'ai vraiment commencé par ça parce que je ne savais pas du tout en fait comment ça pouvait se déplier. J'avais aucune idée. Il a été. C'est sûr qu'il était, on va dire, en colère ou en tout cas très très blessé, mais il n'a pas eu de réaction explosive. Il n'a pas verbalisé ça. En tout cas, pas par des mots blessants.
Finalement,
c'est là qu'il m'a demandé, alors qu'est-ce que tu veux faire ? Oui.
Vous avez quand même un homme assez formidable à côté de vous.
Mais complètement, Olivier. Complètement. Mais c'est idiot. On se met des œillères parfois. On va regarder ailleurs.
Je pense encore une fois...
Je me sens vraiment nulle.
mais je pense que ce que vous avez vécu... vous savez, c'est comme provoquer quelque chose, une situation. Bon, vous l'avez provoqué de cette manière... d'autres l'auraient provoqué d'une autre manière, mais il faut vraiment voir cela comme un élément qui va contribuer à votre construction et à votre évolution à tous les deux. Et je pense que le fait que votre mari l'ait pris comme ça, déjà, en restant calme, en étant blessé, s'il n'avait pas été blessé, vous auriez pu douter de ses sentiments vis-à-vis de vous. Le fait qu'il soit blessé prouve que, même s'il y a de l'orgueil sans doute dans tout ça, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de votre histoire. Et donc, du coup, maintenant que vous avez dit les choses, il faut absolument rester sur cette teneur-là et se dire les choses. Je pense que c'est essentiel que vous considériez l'un comme l'autre que ce qui est le plus confortable dans un couple, c'est de se dire les choses et de ne pas les éviter, de les contourner. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Et ça n'est pas facile.
Oui. Je sais qu'en fait, je le savais déjà, mais je ne sais pas, j'avais oublié ce côté-là, mais je le sais maintenant qu'il est capable d'entendre beaucoup de choses. On n'a pas de tabou, on peut vraiment communiquer. Et ça, c'est formidable. Et je pense que le fait qu'il ait sans doute fait des études de psychologie avant, ça lui donne justement cette habileté à discerner. Et en fait, il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit, En gros, il me dit, bah, t'as mis 10 ans à me tromper. Donc, ça prouve qu'avant ça, il y avait vraiment un truc, que c'était pas, on va dire, un trait de caractère, que c'était pas un truc que assez rapidement ou naturellement dans la relation. Mmh. On entend des histoires sordides de gens qui se marient et qui se trompent quasi instantanément. Ouais. Alors, donc, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que même dans une situation aussi grave, on va dire, il est quand même capable de faire ressortir le positif. Il voit des choses que j'ai pas nécessairement, je me suis pas nécessairement arrêtée là-dessus.
C'est une véritable, c'est un beau cadeau et la preuve vraiment d'une intelligence et d'une grande maturité. En tout cas, voilà, il est à hauteur des sentiments que vous lui portez et ce pourquoi vous l'avez choisi il y a 10 ans. Et je pense que tout ça va rebooster votre couple et sans doute faire évoluer beaucoup de choses dans l'échange que vous aurez maintenant, dans l'attention que vous porterez à l'autre. Je pense qu'une épreuve comme celle-là, parce qu'elle est difficile à digérer, mais elle est salvatrice. Elle est salvatrice.
Olivier, je voudrais juste aborder un dernier aspect avec vous parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Mon mari est au courant, on en a discuté avant, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Par rapport à cet ex-là, j'ai rompu toute communication avec. Donc, ça fait une semaine depuis que j'ai dit à mon mari que je ne communique plus avec cette personne-là et je n'ai pas l'intention de recommuniquer non plus. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour lui. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai quand même cet instinct humain, j'ai quand même envie d'essayer de l'aider de sortir de sa misère, mais pas prendre en charge ça par moi-même, pas du tout. Je ne suis pas thérapeute,
ni rien. Et ce n'est pas votre rôle.
Ce n'est pas mon rôle, mais je crois qu'aussi, une part pour moi de guérir ma blessure d'amour propre à moi, ma blessure émotionnelle à moi, c'est que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un de proche, à cette personne-là, à cet ex-là. Et j'ai écrit à sa sœur.
Oui.
J'ai écrit un message à sa sœur, qui est dans le domaine de la santé. Et je lui ai bien précisé, c'est pas une recherche de vengeance, c'est pas un message malveillant, j'ai pas envie de lui causer du tort, ni rien. Mais en fait, je veux juste expliquer à sa sœur que ce garçon-là, il a, sous couvert de soi-disant gentillesse et de charme, etc., il a vraiment des attitudes et des propos qui portent à confusion chez les femmes. Et j'ai envie de dire des tendances manipulatrices, mais je ne l'ai pas exprimé comme ça dans mon message. Mais je lui ai demandé à cette femme si elle accepterait de me parler au téléphone. Je n'ai pas encore de réponse parce que c'est encore frais. Mais est-ce que vous pensez que je suis allée trop loin? Parce que d'un côté, j'avais vraiment envie de faire ça. Et de l'autre côté, j'ai peur en fait. Encore une fois, j'ai peur de la réaction de cette personne. Elle va peut-être me dire, mais vous êtes complètement folle. Je ne vous connais pas. Laissez mon frère tranquille. Elle pourrait très bien dire ça.
Tout dépend à qui vous vous adressez. Je ne peux pas vous dire quelle réaction elle va avoir, parce qu'elle peut avoir une réaction comme celle que vous venez de citer, ou bien une réaction saine par rapport à quelqu'un qui l'alerte sur... Je ne sais pas du tout. Moi, j'étais en train de me dire que si vous vouliez lui faire du bien, c'est de lui dire merci. De lui dire merci et de lui expliquer tout ce qu'il a pu vous montrer. Mais ça, peut-être pas maintenant, parce que je pense qu'il faut que vous vous concentriez sur votre histoire, et je pense que votre mari n'apprécierait pas, pour le coup, que maintenant, vous ayez envie de faire quelque chose comme ça pour lui. J'entends que vous avez envie de...
J'ai pas envie de communiquer avec lui.
D'accord.
J'ai pas envie de communiquer avec lui parce que même si j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, ma petite guérison à moi, je pense que je suis quand même encore assez fragile. Et cette histoire a révélé plein de choses, oui, sur mon couple aussi, mais sur ma personnalité. Je me rends compte que je suis un petit peu trop sensible, un peu trop gentille. J'ai cette tendance à accorder le bénéfice du doute, même jusque très très loin dans un échange. J'arrive pas à détecter tout de suite le mal ou les intentions un peu plus malveillantes chez les gens.
C'est compliqué.
J'y arrive pas.
C'est compliqué en si peu de temps. Moi, je pense que sur concernant cet homme, il y a quand même un travail qu'il a à faire sur lui. Et je ne pense pas que ce soit votre rôle de l'aider, déjà, dans un premier temps. Je pense en plus qu'il faut vous concentriez sur votre homme et vos enfants. Je pense encore une fois à votre homme, hein, qui n'apprécierait pas vraiment que vous, quelque part, ce sentiment de vouloir l'aider, parce que cet homme, en fait, il ne cédera que le jour où il décidera de faire un travail sur lui. Le fait de prendre ses petites notes sur chacune de ses conquêtes, d'entretenir ces choses-là, de vivre encore chez ses parents, de ne pas sortir d'une certaine routine, fait de lui quelqu'un d'assez immature. Et il y a quand même un travail assez conséquent pour lui s'il veut avancer. Mais ça se déclenchera à travers sa volonté à lui, s'il se rend compte. Parce que finalement, même si vous lui expliquez tout ce que vous pensez de lui et ce que vous ressentez, je ne suis pas certain qu'il le prendra dans le bon sens. Parce que visiblement, il a l'air très imbu de sa personne, cet homme. Donc,
Alors, j'avais déjà essayé, mais ça ne marche pas, effectivement. Il n'est pas du tout réceptif à ça. Et j'ai vraiment aucune intention de communiquer avec lui. Encore moins envie de l'accompagner, parce que vous l'avez si bien dit, c'est pas mon rôle. Et j'ai même pas l'énergie pour ça, après ce que j'ai vécu. Mais je voulais juste alerter sa famille. Parce que, Olivier, j'ai l'impression que même si moi, ça m'a atteint durement, mais que j'arrive à m'en relever aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il a déjà causé du tort à d'autres jeunes femmes. Et ça va continuer, c'est ça le problème, bah, écoutez, parce que son modus operandi reste le même.
Ouais, mais prenez le courrier que vous avez envoyé à sa sœur comme une bouteille que vous avez lancée à la mer.
Et, voilà, exactement.
Et maintenant, ne vous préoccupez plus de tout ça. N'attendez pas de réponse particulière de sa part. Voilà. Parce que ça n'a pas, au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez, qu'elle vous réponde ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est vous, là, dans cette histoire. Et si sa sœur est quelqu'un qui saura déchiffrer ce que vous lui avez envoyé, eh bien, elle fera le nécessaire vis-à-vis d'un frère avec qui, vous ne savez pas, avec qui elle entretient des relations peut-être compliquées aussi, hein, parce qu'il il est quand même particulier, cet homme. Donc, vous ignorez beaucoup de choses de lui, hein, Perrine, aujourd'hui.
Bien
donc,
sûr. Bien sûr.
Le chemin qu'il y aurait à faire pour l'aider me paraît assez sinueux et assez compliqué. Et pas du tout à l'ordre du jour pour vous.
Non, absolument pas. Absolument pas. Et je n'ai pas l'intention que ça le devienne.
Très bien. Mais écoutez, j'étais ravi d'échanger avec vous. Portez-vous bien. N'hésitez pas, d'ici quelques mois, à me rappeler pour me donner des nouvelles de l'évolution de votre couple, de votre histoire. Et. À savoir quel bénéfice vous avez tiré de tout ça, tous les deux, et même tous les quatre, hein, parce que c'est souvent la famille qui en fait les bénéfices. Donc, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord ?
Avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie. Je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est minuit 29 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Stéphane au 39-21. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir Olivier.
Et merci d'avoir patienté Stéphane.
Je vous en prie.
Vous êtes là depuis un moment.
C'est intéressant, je vous en prie.
Alors Stéphane, vous m'appelez d'où et quel âge avez-vous ?
Alors je vous appelle de Dordogne, j'ai 50 ans.
Oui.
Je vous avais déjà appelé au mois de juin, le 22 juin, par rapport à ma petite qui subissait des graves violences et des graves sévices.
D'accord.
Et alors vous m'avez dit de vous tenir au courant. Ouais. C'est pour ça que je vous rappelle.
Ouais, c'est bien parce que je le précise toujours parce que c'est important quand on échange comme ça et que nos auditrices et nos auditeurs vous entendent, vous écoutent. Ils sont souvent nombreuses et nombreux à nous écrire pour savoir comment tout ça a évolué. Et donc c'est important. Je ne le dis pas en l'air hein, quand je vous demande aux uns et aux autres qui intervenissent sur cette antenne de nous tenir au courant. C'est important parce que vous nous racontez finalement des histoires, vos histoires de vie. Et dans ces histoires, il y a toujours une évolution, des rebondissements. Donc, est-ce que vous pouvez me résumer un peu déjà le premier appel que vous m'aviez passé ?
Alors, le premier appel, mais je vous avais appelé par rapport au fait que ma petite de 10 ans avait subi des maltraitances et s'était fait violer chez sa mère. Et on en avait parlé longuement à l'antenne.
Oui.
Et, vous m'avez demandé de vous rappeler pour vous dire l'évolution.
Alors, votre petite, à quel âge ?
Elle a 10 ans, enfin 10 ans et demi.
Elle a 10 ans et demi. Et vous êtes séparés depuis combien de temps avec la maman ?
Oula, depuis 2014. Non, ça fait
d'accord.
7 ans qu'on est en procédure. Ça n'arrête pas, c'est infernal.
D'accord. Et donc, la maman de la petite a obtenu la garde, en fait ? Ou rappelez-moi un peu ce qui s'est passé au niveau du juge des affaires familiales.
Oui, elle a obtenu la garde en 2014, en juillet 2014.
Oui.
Jusqu'au 1er juillet de cette année. Donc, on est passé 19 fois en justice.
19
fois. Oui, 19 fois.
Voilà.
Et c'est pas fini encore. Il y en a encore pour quelques fois. C'est abominable.
Alors, vous êtes passé 19 fois en justice, pourquoi ?
Oui. Bah, parce qu'elle avait fait des plaintes contre moi pour exhibition et agression sexuelle. Elle avait dit que j'avais amené la petite dans les toilettes pour lui montrer ce qu'il fallait pas. Et deux mois plus tard, elle a redéposé une plainte pour agression sexuelle en disant que j'avais agressé la petite. Voilà.
D'accord, je me souviens.
Donc ça a été pris en compte par la justice parce qu'ils l'ont cru, sans vérifier, ils l'ont cru, ils ont donné le bon Dieu sans confession et sans vérifier, mais elle a tout eu d'entrée, et puis moi on m'a coupé tous mes droits comme ça.
Non, mais vous avez été mis en garde à vue aussi par rapport à ça, je crois.
Non, c'était pas loin, mais d'accord. J'ai été interrogé par les gendarmes, oui, je suis passé 35 fois en gendarmerie. Donc,
qu'en est-il de ces accusations ? Vous avez été blanchi, tout ça ?
Oui. Elle avait accusé mon frère, elle m'avait accusé à moi. On a été blanchis tous les deux en 2016, en janvier 2016.
Ouais.
Elle avait fait deux fausses plaintes de police avec deux faux témoignages en plus. Donc tout ça n'a pas été sanctionné.
Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, quand quelqu'un comme ça porte des accusations qui s'avèrent fausses, elle n'a pas été condamnée à quoi que ce soit ?
Non, à rien du tout. À rien du tout. Elle a tout ça a été classé sans suite. Même un de ses faux témoins, une copine à elle, sur la seconde plainte pour agression sexuelle, c'était pas quand même rien. Elle a avoué aux gendarmes, elle a avoué aux enquêteurs qu'elle avait menti. Rien n'a bougé. Elle a continué d'avoir la petite. Tout va bien. Tout va bien. Il y a eu des rapports des services sociaux comme quoi elle l'a maltraitée et ça n'a pas bougé. Moi, c'est pour ça que j'en veux beaucoup à la justice aujourd'hui. J'ai plus confiance dans ces gens-là, voilà, clairement.
Mais ouais, c'est compliqué d'avoir confiance, là,
cas. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait eu 9 signalements de gendarmes, de services sociaux, d'école.
Pour mauvais traitement, hein.
Mauvais traitement, il y a eu un signalement des services sociaux aussi en 2018, quand elle s'est fait violer. Et moi, je suis même sûr qu'elle s'est fait violer depuis 2014.
Mais par qui, en fait ?
Ben il y a eu deux personnes. Il y a eu l'oncle et le demi-frère, donc le fils de mon ex, qui habite chez la mère depuis 2014, depuis le début.
Et avec tout ça, en fait, vous voyez votre fille un peu ou pas ?
Alors, j'ai perdu mes droits trois fois. Avec ces accusations, j'ai perdu mes droits. Je l'ai vu en espace rencontre. J'ai récupéré mes droits en 2019 et là, on les a, la mère et moi, reperdus à nouveau depuis le 1er juillet. Parce qu'on est passé chez la juge des enfants de Carcassonne.
Oui.
Et elle a mis en avant le conflit parental. Alors ça aussi, c'est un mot qu'ils emploient souvent, quand ils ne savent pas trop quoi dire.
Ça veut dire en fait que la juge a décidé de vous enlever à l'un et à l'autre la petite, en fait.
Voilà.
Elle a été placée.
Voilà, elle a été placée en famille d'accueil depuis le 5 juillet de cette année.
Oui.
Et nous, on la voit 2 heures par mois en espace rencontre à Carcassonne. C'est encore une fois de plus une décision. Alors, moi, j'en veux pas à la juge des enfants qui a pris cette décision-là. J'en veux parce qu'elle arrive en bout de ligne, elle arrive en bout de course, elle ne peut pas en prendre une autre. Mais j'en veux au juge avant qui aurait dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui n'ont pas fait leur boulot avant. Quoi. C'est abominable d'attendre autant de temps pour dire au bout de 7 ans, il y a un conflit parental. Ils ont mis 7 ans pour s'en rendre compte. C'est une fois de plus, c'est du n'importe quoi, cette justice. Et franchement, ils mettent en avant l'enfant, la protection de l'enfance, mais ils sont pas capables de la protéger. Ils l'ont laissé 7 ans se faire maltraiter et violer. Donc, ils ne nous racontent pas.
le profil de votre ex-épouse, vous étiez marié avec elle ?
Non, on était on a vécu 7 ans ensemble, mais on n'était pas.
D'accord. En fait, quand elle est partie, en fait, elle est partie où ? Est-ce qu'elle est partie loin d'où vous étiez ? Vous avez perdu ?
Non.
Vous les avez perdus instantanément, vos droits parentaux ? Ou est-ce que vous l'avez...
Pratiquement. Dès qu'elle est partie, elle est partie à 1 heure de chez moi. Oui. J'étais du côté de Toulouse, elle est partie en Ariège. Et quand elle est partie, le lendemain, elle a déposé plainte contre moi pour exhibition sexuelle. Le lendemain de son départ. Donc, c'est remonté très vite. Quand ils disent, ah, mais on n'a pas de moyens, c'est là, la justice. Non. Quand ils veulent s'en donner la peine, ils ont les moyens.
Ah oui,
et je perdais mes droits de suite.
Bah, voilà. Surtout que ce sont des accusations très, très graves, bien évidemment. Donc,
mais oui, c'est grave.
Donc c'est normal que ça aille vite. On peut se réjouir au moins que ça aille vite. Mais finalement, lorsque ce sont de fausses accusations, il est certain que c'est pas... Voilà, ça va vite, mais dans le mauvais sens, finalement.
Voilà. Quand c'est vrai, bon, que ça aille vite, c'est bien. Mais quand ils mettent un temps... Enfin, ils mettent pas longtemps pour vous retirer vos droits. Quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, au lieu de reconnaître leurs erreurs, ils ne reconnaissent jamais.
Comment, parce que plusieurs auditeurs vous demandent comment avez-vous été blanchi de ces accusations, en fait, dans quelles circonstances, en fait, vous avez pu être blanchi ?
Les enquêteurs de police, ils ont enquêté sur nous, ils ont convoqué mon frère, ils m'ont convoqué à moi. Bon, il faut savoir que cette femme-là, elle a quand même 5 enfants de 5 pères différents.
Oui.
Et que tous ses enfants ont des troubles du comportement. Donc, elle n'a jamais eu peur d'un seul de ses enfants. Donc, bon, quand même, il y a un lourd passé.
Ce qui est carrément étonnant dans votre histoire, c'est qu'il n'y ait pas un moment où vous ayez pu obtenir la garde de votre fille.
Mais non, c'est ça qui ne va pas. Surtout qu'en plus, quand on est passé le 1er juillet, et c'est pour ça que je le rappelle, parce que ça me met en colère, c'est pas possible. Quand on est passé le 1er juillet de cette année, de 2021, chez la juge des enfants de Carcassonne,
oui.
elle a reçu ma petite avant. Ma petite a parlé et elle lui a dit à la juge, je veux venir chez papa. Parce que la juge nous en a parlé, dès que nous on est rentrés après avec tout le monde.
D'accord.
Et moi j'ai dit à la juge, ben oui, j'ai dit, moi ça fait 7 ans que je le demande. On est passé 6 fois au JAF, donc le juge des affaires familiales qui fixe le lieu de résidence de l'enfant. 6 fois on m'a débouté, alors chaque fois j'ai pas compris pourquoi. Et là elle dit à la juge, qu'elle veut venir chez moi, moi je dis que je suis capable de m'en occuper, et non, elle la met en famille d'accueil. Je comprends pas, moi j'ai du mal à comprendre comment ils font ces gens-là, ils vivent sur notre planète, vraiment.
Et est-ce que vous aviez un avocat qui vous assistait à cette dernière audience ?
Oui, j'avais un avocat, je suis même convaincu qu'ils avaient décidé de ça bien avant, parce que l'année d'avant, en 2020, faut savoir qu'on peut faire appel... pour ceux qui connaissent un petit peu, à la chambre, ce qu'on appelle la chambre des mineurs.
Oui.
C'est-à-dire que quand un juge des enfants, là, en l'occurrence la juge des enfants de Carcassonne, a émis son jugement, quand vous recevez le jugement recommandé, vous avez 15 jours pour faire appel à la chambre des mineurs, pour contredire le jugement, pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Et Carcassonne, la chambre des mineurs, c'est la chambre des mineurs de Montpellier. Donc moi j'ai fait appel en disant que j'étais pas d'accord. J'étais d'accord pour la mesure éducative, mais pas chez la mère, parce qu'elle était en danger chez la mère. Et ils m'ont dit, oui, mais votre appel a été validé, on vous convoquera. Sauf qu'ils ne m'ont pas convoqué du tout. J'ai fait appel en juillet 2020, et là, aujourd'hui, je n'ai pas été convoqué et je ne serai pas convoqué.
Mais vous savez que vous avez des recours pour ça, parce que c'est la loi que vous avez le droit à cet appel, Stéphane.
Et j'ai le droit, mais comme ils changent un petit peu les lois quand ça les arrange, si vous voulez, la mesure éducative, ils l'ont enlevée. Ils ont dit, il n'y a plus de mesure éducative. On l'a mis en famille d'accueil. C'est plus nous, c'est plus les services sociaux, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est les services sociaux, mais c'est pas le même service, quoi. Mmh. Et maintenant, on met le problème ailleurs, vous vous débrouillez, et puis ils n'ont même pas donné de délai. Moi, je vais ressaisir le JAF d'ici 6 à 8 mois, si c'est possible, suivant les rapports, suivant comment ça va se passer, suivant... Parce que ma petite n'est pas du tout bien en famille d'accueil, il ne faut pas rêver. Hein. Moi, je l'ai vue le 16 août, elle était complètement détruite, hein. J'en prends un mot un peu fort, mais elle était en pleurs, elle était... Elle comprenait pas. J'ai dit à la juge que je veux venir chez toi et je suis pas chez toi, quoi. Donc tout le mois de juillet, je l'ai pas vu, voilà.
Et, vous avez le droit de l'avoir 2 heures en espace protégé, là, actuellement.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Parce que ils mettent en avant le conflit parental. Il n'y a pas de conflit parental.
Mais il y a toujours eu conflit parental, Stéphane. Il y a toujours eu un conflit parental entre vous. Visiblement, votre ex n'a cessé de vous accuser des pires choses. Donc, c'est du conflit, ça, en fait. Mais ça n'est pas de votre faute, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Et ça ne justifie en rien la décision de la juge des enfants de Carcassonne de placer une petite parce qu'il y a un conflit. Il y a un moment, il y a un moment à une situation où visiblement il y a eu, je ne sais pas combien de signalements concernant votre ex pour mauvais traitement.
Il y en a eu 9.
Ce qui est incompréhensible dans cette histoire, c'est que vous n'ayez pas eu au moins, qu'on ne vous ait pas donné votre chance d'avoir la garde de votre petite et de prouver que vous étiez un bon père.
Mais voilà, on m'a donné ma chance, enfin la chance à cette petite, parce que faut quand même pas oublier que la seule personne à qui elle s'est confiée quand elle s'est fait violer, c'est à moi. Elle l'a pas dit à la mère, elle n'a pas dit aux services sociaux, elle a dit à personne. Et ces gens-là, moi j'essaie de faire tout pour les aider, j'essaie de faire ce qu'il faut pour ma petite, et ils m'ont toujours tourné le dos et puis ils m'ont toujours snobé. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Si tu les aides pas, il faut les aider. Si tu les aides, t'en fais trop. Moi, je sais plus. Ce qu'il faut faire, c'est. Et quand on parle de la parole de l'enfant, on dit oui, la parole de l'enfant, elle doit être entendue en justice. C'est la loi aussi. Eh bien non, c'est du pipeau, tout ça.
Mais votre avocat, qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire? Il n'a pas fait, justement, il n'a pas mis en avant que votre fille désirait venir chez vous, que la petite, elle avait parlé?
Mais si, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'a dit ma petite en avant, avant nous, c'est ce qu'a dit mon avocat, c'est ce que moi j'ai dit. Mais la juge, elle a pris, en plus c'était une substitut, c'était pas la titulaire, et elle a pris les rapports sociaux en compte, quoi. Elle a écouté les services sociaux, donc de Dordogne, parce que j'habite en Dordogne, de Carcassonne. Et ils ont dit la même chose, oui, bon, le père, alors, ça aussi, le père il est dangereux, l'éducatrice, de Dordogne, elle dit deux choses différentes. À la chambre des mineurs, elle fait un rapport en disant que tout va bien chez moi, et quand elle sait qu'on va pas y passer, elle fait un autre rapport en disant que je suis dangereux pour la petite. Non, mais ils sont complètement fous, ces gens-là. Ils font les rapports au moment où ça les arrange, quoi. Parce que c'est des gens qui sont frustrés, ils sont entre les parents et les juges, ils seront jamais juges de leur vie, donc ils essaient de se faire bien voir des juges, et puis ils font un rapport qui va dans le sens des juges et de leur jugement à eux. Même si le rapport est complètement pourri, mais ils font quand même ce rapport-là pour se faire bien voir des juges. Ils ne feront jamais un rapport qui va aider l'enfant, jamais. Ils s'en fichent de ça.
Vous évoquiez votre frère, vous êtes entouré par votre famille, par vos parents,
par mon frère, il habite à 5 minutes de chez moi, et on se voit souvent, et heureusement, et on en parle à chaque fois qu'on... Et il écoute ce soir, certainement, même. Mm-hmm. Et on en parle à chaque fois qu'on se voit, peut-être même un petit peu trop, puis lui, c'est pareil, il est dégoûté.
Vous m'étonnez. Et vos parents, dans tout ça, en fait? Est-ce qu'ils revendiquent le droit des grands-parents ou pas?
Mon papa n'est plus là, mais ma maman, elle a 80 ans, et elle ne comprend pas non plus. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne va pas sa petite-fille, normalement. C'est d'une violence, tout ça.
C'est très violent. Très
ah oui, on vous retire votre enfant comme ça, quoi. Si vous avez l'impression vraiment d'être un criminel, d'avoir, excusez-moi le terme que je vais tuer quelqu'un, quoi. Si vous avez l'impression d'avoir fait les pires choses du monde, vous êtes parent, vous n'avez même plus le droit de voir votre enfant, quoi. Cet été, j'ai même pas pu aller à la pêche avec elle, j'ai même pas pu en profiter, j'ai même pas pu. Je devais l'avoir le mois de juillet, et puis le 1er juillet. Alors ça aussi, c'est pour ça que je dis qu'ils avaient préparé leur coup. D'habitude, on est convoqué chez la juge des enfants le 14-15 juillet. Là, on était convoqué le 1er. Et deux jours après, ils avaient trouvé la famille d'accueil. Ils ont trouvé la famille d'accueil en deux jours. Il faut arrêter un petit peu. À partir du moment où ils ne convoquent pas la chambre des mineurs, c'est qu'ils ont déjà prévu leur coup, c'est qu'ils ont déjà choisi de la placer, et deux jours après, ils trouvent une famille d'accueil. Alors, comme par hasard. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des idiots un petit peu. Donc, ils parlent de protection de l'enfance.
Le problème aujourd'hui, Stéphane, c'est que vous le savez, puisque vous le vivez, comme bien d'autres parents, toutes ces décisions souvent sont difficiles à admettre et difficiles à comprendre, parce qu'il y en a certaines, comme vous nous expliquez les faits ce soir, qui n'ont aucun sens, en fait. Et Je ne sais pas ce qui peut faire bouger les choses. On évoque souvent sur cette antenne la problématique de cette justice familiale qui repose sur des lois, pour certaines, qui datent de Bonaparte.
Oui.
Voilà, j'ai du mal à... Si vous voulez, on reçoit tellement d'appels de parents comme vous qui sont... quel mot exact, qui sont totalement démunis devant les décisions. Devant les décisions de justice, démunis, oui, choqués, démunis,
oui, démunis,
qui ne comprennent pas, à qui on n'explique pas pourquoi. Voilà, vous, on vous a dit juste, il y a un conflit parental, on enlève la petite. Mais ce conflit parental, il me semble qu'il dure depuis que vous êtes séparés. Voilà.
Ça fait 7 ans, mais ce n'est pas moi qui le crée, ce conflit. C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit, quand je suis avec ma petite, je l'extirpe de là-dedans. Elle le voit, en plus, elle me dit, moi quand elle venait chez moi en vacances, parce qu'avant j'avais droit à toutes les vacances, elle me disait, mais maman, elle n'arrête pas de dire du mal de toi. Elle a fait des dessins aussi. Alors ça, moi j'ai trouvé ça hallucinant. Elle a fait des dessins où le fils de mon ex et mon ex me tirent dessus. Un jour, elle me dit, tiens, papa, je vais te faire un dessin. Papa, t'es mort. Et j'ai montré ça aux services sociaux, à la juge, et il y a des menaces de mort. Que la petite me dessine, et il n'y a rien qui est pris en compte. C'est fou, quoi, quand même, quoi. Elle manipule son enfant, et il n'enlève pas parce qu'elle est en danger. Il enlève parce qu'il y a un conflit parental au bout de 7 ans. Mais ils sont abominables, ces gens-là. Ils prennent le dialogue, mais ils prennent... Alors, ils vous disent, oui, il faut vous entendre entre les parents, mais quand moi, je m'accroche avec les services sociaux, parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre, je leur ai dit qu'ils ne faisaient pas leur boulot, ils en parlent à ma petite. Le gars des services sociaux de Carcassonne, il lui dit, oui, t'as vu, je me suis engueulé avec ton père. Mais ils prennent le dialogue et ils vont dire à ma petite qu'on s'engueule tous les deux. Mais quel est son intérêt à ma petite?
C'est surtout qu'on parle pas un enfant de 7 ans de ce genre de choses. Surtout.
Ben non. Et après, ils disent que c'est moi qui suis vindicatif, que je dis du mal de la mère.
Vous vous êtes rapproché d'une association de défense des parents comme...
Alors, oui, d'un journaliste surtout, parce que vous m'aviez dit à l'antenne, je me rappelle, Mani Tam Tam, je me rappelle du nom. Et d'un journaliste, alors association, oui, mais c'est compliqué parce que le temps de faire des courriers, tout ça.
Reparlez bien dans votre téléphone, je ne vous entends pas là.
Ah, pardon.
Oui.
Vous m'entendez mieux là?
Ouais.
Oui, je me suis rapproché surtout d'un journaliste qui est en train de faire un papier, là, je l'ai eu cet après-midi.
D'accord.
Il va faire un papier par rapport à tout ça. Il a halluciné aussi parce que quand je lui ai montré toutes les preuves, tous les papiers, il m'a dit, mais c'est pas possible.
C'est très bien, c'est très bien. Parce que vous savez, là, seul moyen de faire bouger les choses localement. En tout cas, les journalistes contribuent à faire bouger les choses. Et vous avez bien fait. Et donc, il a entendu votre histoire, il a compris.
Il a tout compris. On s'est parlé 1 heure, le 1er juillet. Il a pris tous les papiers, tous les documents. Il les a tous lus. Et il est allé voir, parce que c'est un journaliste qui fait que ça. Ça fait 25 ans qu'il fait cours d'assises, viol sur enfant, meurtre.
Oui.
Enfin, il connaît tous les juges, tous les procureurs, tous les gendarmes du coin. Et il est en train de faire le papier, il dit bon, je le fais pas encore parce qu'il faut que j'aille voir votre avocat, il faut que j'aille voir l'avocat de votre ex, il veut toutes les versions. Et je le ferai d'ici 15 jours, 3 semaines à la rentrée, quand les gens seront rentrés, parce qu'il m'a dit là, ils sont encore en vacances et ça va pas être lu par tout le monde. Donc il va le faire.
Très bien, très bien.
Mais ça va faire bouger les choses. Il m'a dit, il y a que comme ça, parce que ces gens-là, ils sont tellement... mais ce sont des juges, donc ils sont au-dessus des lois, ils les respectent même pas eux-mêmes, ils s'en fichent, il y a personne qui leur dira rien. Mais si on parle de ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, donc...
Je ne pense pas qu'ils s'en foutent. Je pense que ces juges, en fait, n'ont absolument pas le temps d'étudier les dossiers en profondeur et donc rendre justice sur des faits, peut-être les derniers faits constatés, vous voyez... Ça ressemble à ça, hein, cette juge qui vous dit il y a un conflit parental, on place la petite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte de toute l'histoire avant, vous voyez, de votre histoire, du fait que vous soyez battu, que vous y été accusé de choses abominables et que vous y été blanchi, vous et votre frère de ça, qu'il y ait eu des signalements de votre ex-compagne. Dans la décision de la juge, il n'y a aucunement une prise en compte de tous ces éléments-là. C'est voilà, ça fait tant de temps que ça dure, là, les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. la petite, elle va aller en famille d'accueil, comme ça, et c'est une décision totalement destructrice, et pour la petite, en premier.
Ah oui.
Et puis pour vous aussi, bien évidemment.
Mais c'est ça que je trouve grave, parce que il y a quand même eu des choses qui se sont passées, et à aucun moment, ils se sont dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas chez la mère. Ils ont toujours essayé de voir, oh, mais la mère, c'est une éducation à la rude, on va essayer de l'aider, mais il n'y a pas à l'aider. Elle a des problèmes psychologiques. Qu'est-ce que vous voulez aider une femme qui a des problèmes psychologiques? Elle les reporte sur sa petite. Et ils ont tellement cru ça que moi, quand je parlais, ils ne m'écoutaient même pas. Donc, comme ils ne m'ont jamais écouté de toute façon, et bien ça continue. Donc, vous ne pouvez pas discuter parce qu'ils disent qu'il y a du contradictoire, mais non. C'est les services sociaux qui... En plus, moi, je me suis pas qui décide. Je me suis pas entendu avec la personne des services sociaux de Dordogne. Elle m'a quand même menacé. Elle me dit oui, si vous nous écoutez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous en subirez les conséquences. Donc elle, les conséquences, c'est je fais un rapport destructeur. Le père, elle m'a défoncé au niveau du rapport. Elle m'en a mis plein la figure, quoi. Et c'est ça que la juge a pris en compte aussi. Et moi, je trouve ça grave de dire ça, quoi. Ils sont pas là pour dire ça. Ils sont là pour analyser. Ils sont là pour faire un rapport le plus juste possible. Moi, je ne demandais pas.
Christian nous demande au 739-21 si vous remplissez toutes les conditions pour accueillir votre fille. C'est-à-dire qu'il précise chambre pour la petite, travail. Est-ce que tout ça vous a été demandé à un moment ou jamais?
Oui. Ils sont venus chez moi. Ils ont bien vu qu'il y avait une chambre pour la petite. Il y a même trois chambres. Il y a tout ce qu'il faut. Je travaille. Je suis quelqu'un de tout à fait sain, je fais du sport régulièrement aussi, donc leur problème, c'est qu'ils ont tellement d'a priori au départ sur moi, même sans me connaître, que ça y est, ils m'ont déjà jugé, ils m'ont mis une cible, et puis ça y est, c'est lui, il est méchant, il est vindicatif, il trouve toujours une formulation générale, et chaque fois qu'ils sont pas d'accord, et ils mettent toujours quelque chose... Oh, il y a un conflit parental, oui, mais voilà, c'est la faute du père. Et c'est parce que sur le dernier jugement, il y a 10 lignes contre moi. Il y a conflit parental. Alors le père ne remplit pas les conditions, il n'est pas gentil, il est ci, il est là. Et la mère, il y a 2 lignes, quoi. Donc au bout d'un moment,
oui, vous craquez un peu.
C'est un acharnement. Et moi,
pourquoi on ne dit pas que vous êtes gentil? Pourquoi? Parce que vous vous êtes rebellé à un moment contre les services sociaux.
Mais oui, moi je leur ai dit, au début non, au début ils m'ont dit faites-nous confiance et tout ça, mais quand vous entendez une éducatrice débile qui vous dit faut plus que votre fille joue à la poupée parce qu'elle s'est fait violer, je dis mais quel est le rapport? Mais oui, parce que quand elle joue à la poupée, elle retourne la poupée, elle voit le sexe et puis ça peut lui rappeler le viol. Je dis mais c'est pas la tête. Quand vous entendez des trucs comme ça, vous devenez fou, quoi.
Ouais.
Surtout que la petite lui avait dit que sa mère lui faisait du mal et qu'elle a rien fait. J'ai dit, mais madame, machin truc, là, je dis, mais ça va pas la tête de dire des trucs comme ça. À l'époque, elle avait 8 ans. Je dis, bien sûr qu'elle va jouer à la poupée. Donc, au bout d'un moment, quand cette femme-là, elle vous sort des trucs pas possibles devant la juge, que c'est ce qu'elle a dit, hein, mon frère et moi, on se met des doigts dans la nuit, c'est que ça nous fait du bien, que ça nous excite, qu'on sent tout d'un coup. Parce que la mère lui a dit ça, elle a cru. Mais vous lui dites, mais vous êtes folle, quoi. Donc, au bout d'un moment, oui, c'est plus que de la rébellion. Elle a jamais vu mon frère, elle va lui. Ah oui, mais elle a jamais vu mon frère, elle va balancer des trucs pareils. La mère lui dit ça, elle dit ça. Non, mais il y a un moment donné, c'est plus que de la révolte. C'est alors, vous dites, mais ils servent à quoi ces gens-là, quoi.
Yvette nous demande au 739-21 comment va votre fille. Et Yvette a cru comprendre que la parole des enfants était entendue et que les enfants pouvaient se défendre. Yvette, je pense que vous n'avez pas. À un moment, vous vous êtes peut-être absenté, mais Stéphane a précisé que lors de la dernière audience, sa petite-fille avait été entendue avant par la juge et la fille de Stéphane, donc, du haut de ses 10 ans, avait émis l'envie de venir vivre chez son papa et que, malgré sa demande, eh bien, elle a été placée dans une famille d'accueil.
Voilà.
Et que là, eh bien, votre fille n'a pas été entendue. Et c'est bien dommage. Ce qui est bien dommage dans votre histoire, c'est qu'on ne vous ait pas laissé une seule fois la chance de montrer que vous étiez un bon papa et que la petite, elle pouvait vivre une vie tranquille avec vous. C'est ça qui est. Et je pense que vous ne l'avez pas vu venir au début, ces accusations, on ne les voit jamais venir, mais malheureusement, ces accusations, ça arrive fréquemment que des femmes accusent les papas de ce genre de choses, quoi. Alors, je sais que les gendarmes sont assez habitués à ça, hein, les gendarmes comme les policiers, parce que vous n'êtes pas le premier, hein, Stéphane, vous le savez.
Oui, c'est
quelque chose de très répandu, ce type de d'accusation quand il y a un conflit entre les parents et que on a un manque d'intelligence profond de la part d'une maman qui va accuser des pires choses, parce que c'est vraiment accuser un papa de ça, c'est dégueulasse.
Ah mais c'est horrible parce que quand c'est vrai, bon, il faut
ah bah quand c'est vrai, il faut le faire.
Faut le faire, bien sûr, faut le faire. Moi, je tire sur les services sociaux parce que je trouve qu'ils sont pas compétents et je les trouve très agressifs, ces gens-là. Mais bien sûr que même si vous voyez un enfant en danger, il faut appeler le 119, il faut faire intervenir les services sociaux, il ne faut pas laisser faire. Mais pareil, si vous savez des choses sur un enfant qui se fait agresser aussi, il faut déposer plainte, il faut aller voir les gendarmes, enfin voilà, bien sûr. Mais moi, ce que je trouve triste, c'est que quand vous êtes accusé, on vous écoute même pas. Vous perdez vos droits et vous n'avez plus droit à rien. Mais il y a la présomption d'innocence, elle existe dans ce pays où... Et là, moi, quand j'ai commencé à dire, mais non, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas vous? Voilà, de suite. Et quand ils ont vu qu'il y avait des mensonges de la mère, parce que c'est quand même grave d'accuser les gens de ça, moi, j'ai déposé plainte pour calomnie, on m'a refusé ma plainte, on m'a dit non, si elle vous a accusé, c'est qu'elle pensait bien faire. Non, elle ne pensait pas bien faire. Elle m'a accusé à tort, elle le savait très bien.
Qui vous a dit ça? Si elle vous a accusé, elle croyait bien faire. Qui vous a dit
ça? Un gendarme, il m'a dit ça.
Mais vous savez, tout ça ne tient que sur le ressenti, par exemple, du gendarme qui va prendre votre déposition. Si vous revenez au gendarme, eh bien, il va vous croire, il va aller dans votre sens, il va appuyer même et se rendre compte que vous êtes quelqu'un tout à fait normal. Pour peu qu'ils décident d'enquêter un peu sur vous, en quête de moralité, ça s'appelle. Ça existe, ces enquêtes de moralité, pour tout un tas de choses, me semble-t-il, et on se rend vite compte qu'on a affaire à des gens équilibrés, qui travaillent, qui ont une existence sociale, des amis, des parents. Là, malheureusement, vous n'avez eu le droit à rien du tout. Donc, c'est là où, quand même, votre avocat, je ne sais pas s'il a bien fait son job, mais ça, c'est vous qui savez, Stéphane.
Les premiers, le dernier, oui, celui de Carcassonne, le dernier, ça fait 2 ans que je travaille avec lui, ça va, il enquête.
Mais il faut rien lâcher.
Ah non, je lâcherai rien, mais c'est douloureux parce que
bien sûr.
7 ans, j'ai vu ma petite 2 ans et demi mais et oui, un an et demi en espace sans rencontre quand même, vous vous rendez compte. J'ai fait 2 Noëls avec elle, 2 anniversaires.
Non, mais bien sûr.
Et je trouve que les accusations de ces femmes-là, quand elles sont non fondées, elles devraient, parce que vous perdez tout, vous perdez beaucoup de choses, vous perdez tout. Parce qu'on vous dit, oui, mais tu as perdu avec ton enfant, tu vas récupérer. Non, ce qui est perdu, c'est perdu, ça ne se récupérera pas.
Malheureusement, c'est comme ça, Stéphane. On arrive à la fin de l'émission, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous prendre plus. Mais en tout cas, courage. N'hésitez pas à nous envoyer l'article quand il sera paru, vous l'envoyez à Florian. Oui. Et puis, on se tient au courant, n'hésitez pas, vous savez qu'on est là, d'accord?
Ok, mais c'est pour ça que ça fait du bien aussi.
Allez, voilà. Merci. N'hésitez pas à me rappeler, Stéphane. Et courage à vous, ne lâchez rien.
C'est gentil. Merci,
au revoir.
Olivier. Merci
au revoir.
Beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. J'espère que vous aurez passé un bon moment. C'était très intéressant, comme d'habitude, ce soir. Maintenant, vous le savez, il faut vous relaxer, écouter peut-être les programmes de Nuit d'Europe, et puis vous allonger tranquillement. Ne pas oublier de bien respirer. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime, qu'ici, vous êtes chez vous et que demain soir, à partir de 22h30, vous serez à nouveau chez vous. Salut, à demain.